Colocataires, parents et enfants, frères et sœurs ou que sais-je, comment vivre avec des personnes que l'on trouve invivables?
Tu sais Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine.
Il me disait tout quand il était petit. Maintenant, je ne peux même plus ouvrir la bouche sans que si, sans que ça, si jamais que rien, qu'il y a toujours quelque chose.
Je pense que je suis faite pour pas avoir de mère.
Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils.
J'imagine que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché. Ils sont hypocrites quand même. Eux aussi, ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré un an. Peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié. Mais ils l'ont quand même fait.
Le premier film de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, s'ouvre sur une scène de repas où un fils regarde sa mère manger une tartine de fromage. Si l'air exaspéré du héros donne le ton de leur relation, la manière dont est filmée en gros plan la bouche de la mère, les mouvements de ses lèvres, les bouts de fromage avalés ou la façon dont elle mâche, révèle parfaitement ce sentiment d'agacement, voire de dégoût, que l'on peut éprouver pour quelqu'un de proche. C'est quelque chose d'assez frappant d'ailleurs, ce dégoût pour une personne à laquelle on est attaché. Quiconque a vécu avec une autre personne que lui connaît forcément bien ce phénomène, cette ambiguïté de l'amour ou de l'amitié qui consiste à chérir totalement une personne, mais en détester cependant certains traits. Ce n'est pas que l'attachement disparaît, c'est qu'il change de forme et s'attache justement moins à l'ensemble qu'à des points particuliers et souvent exaspérants. Une manière de manger, de respirer, de marcher, une manie à laisser traîner ses clés ou à n'aimer que les pattes, une habitude à laisser les lumières allumées ou à s'endormir devant la télé, peu importe. La cohabitation, et ça marche aussi avec ses amis, des colocataires ou ses enfants, a ceci de paradoxal. Parce qu'elle nous fait vivre tout le temps avec des personnes à part entière, elle nous les rend forcément invivables. Pourquoi ?
Au début de notre mariage, je l'appelais Peggy Sage. Peggy parce qu'elle a un côté un peu anglo-saxon, comme ça, un peu réservé.
Quand j'ai senti que ça commençait à aller mal, au lieu d'arranger les choses, je les ai aggravées parce que j'avais peur.
On dirait une petite fille qui fait semblant d'être une femme.
Alors vous vous rendez compte, être vierge à 20 ans, mais j'étais un anachronisme vivant, une vraie conne.
Merci mademoiselle.
Non pas mademoiselle, madame. Christine !
Pourquoi vivre avec d'autres que soi est-il invivable ? C'est une question que je me suis beaucoup posée depuis le début du confinement, cloîtrée comme beaucoup, avec partenaire et enfant. Ce n'est pas qu'une question de corvée, d'espace ou de temps, c'est une question de présence. Ils sont toujours là, et ils sont toujours là, non plus comme des personnes, mais avec leurs tics, leurs désirs, leurs rythmes et leurs besoins. Faire avec la manière de respirer de l'un, faire avec les affaires qui traînent de l'autre, faire avec leur crise, c'est fou comme la cohabitation en vient d'ailleurs à désincarner l'autre. Alors qu'il est tout le temps là, pleinement, entièrement, il ne reste de lui qu'un agrégat de manies et d'habitudes avec lesquelles on doit composer. Tout comme il ne reste de moi d'ailleurs que des manies et des habitudes que j'impose aussi. Mais d'où vient donc ce paradoxe de la cohabitation qui, plus que de rendre la vie invivable, la dépouille de sa vie, la réduit à quelques traits, à des habitudes et des manies? La vie en solitaire serait-elle forcément mieux? Serait-elle forcément vivable? Serait-elle forcément viable?
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine.
Alors que j'en viens à me souvenir, avec une certaine émotion et une certaine nostalgie de mon studio d'étudiante, seule et tranquille avec moi-même, je ne crois pourtant pas que la vie en solitaire était vraiment meilleure. Certes, on pourrait croire que le problème vient de cette vie commune, qui tourne nécessairement à la routine, d'autant plus quand elle n'est pas la nôtre, quand elle nous aliène. Mais j'ai une autre hypothèse. Et si le problème de cette vie devenue invivable tenait non pas à l'autre et à ses manies, mais tout simplement à une réduction de la vie? Qu'il s'agisse d'habitude ou de tics, d'espace ou de temps, le problème est là, je crois, dans cette existence diminuée, recroquevillée, restreinte à quelques mécanismes. Voilà, la vie seule ou à plusieurs devient, je crois, invivable quand elle devient mécanique, automatique, un réflexe, quand elle devient en fait le contraire de la spontanéité.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.